une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous étions en compagnie de Camille Jusa et Lionel Quentin au cœur de l'histoire de la construction de la Grande Arche de la Défense. Nous avons fait un léger retour en arrière dans les années 70, puis en 1981, au moment de l'élection de François Mitterrand. Ce dernier souhaitait marquer son quinquennat par de grands travaux. Outre la rénovation du Louvre, la construction d'un nouvel opéra à Paris ou encore d'une cité de la musique, il entreprend de marquer la perspective des Champs-Élysées au-delà de l'Arc de Triomphe avec la construction d'un grand monument. Il relance alors le projet de tête défense dès son élection. C'est un architecte danois, Johan Otto von Spreckelsen, totalement inconnu dans l'Hexagone, qui est choisi pour réaliser ce projet aussi ambitieux que complexe. Son ébauche de cube ouvert comme une fenêtre sur le monde va se heurter à des contraintes économiques, mais aussi politiques. Tout de suite, nous retournons sous le gigantesque cube de verre et de granit, si vaste qu'il pourrait abriter la cathédrale Notre-Dame.
Alle der har været i Paris, eller selv de der ikke har været der, de ved at Paris er karakteristisk ved et Eiffeltårn. Det ser sådan ud.
Johan von Spreckelsen, architecte de l'Arche.
Tous ceux qui sont allés à Paris, et même ceux qui n'y sont pas allés, savent que le symbole de Paris est la tour Eiffel. C'est une tour, et ça ressemble à ça. Ils savent qu'il existe aussi quelque chose appelé le Sacré-Cœur, qui ressemble à ça, des coupoles, et en contrebas de grands escaliers. On sait aussi qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'Arc de Triomphe et qui ressemble à tous les autres Arcs de Triomphe, c'est-à-dire une chose un peu comme ça, avec un trou dedans. Et il y a aussi quelque chose qui s'appelle le Centre Pompidou, ça ressemble à ça, avec un escalator sur la façade. Vous voyez, ce qui est drôle dans tous ces bâtiments, c'est qu'aucun d'entre eux n'a quoi que ce soit à voir avec le reste de Paris. Tous ces monuments célèbres de Paris, ce sont des édifices qui ne sont pas caractéristiques de ce qu'est Paris. Et d'ailleurs, ils sont tous uniques dans leur genre. C'est vraiment drôle parce que si vous faites le croquis d'une ville, vous allez montrer ses différents quartiers, leurs habitations, mais ce n'est pas le cas pour Paris. Et c'est l'une des choses qui m'a frappé lorsque j'ai travaillé sur le concours de la Défense. C'est que tout ce que nous connaissons de Paris est finalement assez différent de ce qu'est Paris en réalité. Alors je me suis dit que s'il voulait quelque chose de nouveau, un nouveau monument, je devais penser à quelque chose qui n'avait rien à voir avec Paris et qui n'avait jamais été fait. Alors comme il n'y avait aucun cube à Paris, je me suis dit, voilà ce qu'il leur faut. Il leur faut un cube.
L'Arche de la Défense, épisode 2, la tragédie.
Parmi les 424 candidats au concours,
Laurence Cosset,
on a découvert,
auteur du roman La Grande Arche.
Après coup, que 423 étaient des grandes agences d'architecture, des grands cabinets étrangers ou français comptant 30, 50, 100, 200 collaborateurs, et que le gagnant était le seul à être seul, si je puis dire. Le gagnant était un professeur qui avait imaginé ce projet tout seul, qu'il avait fait valider par un ingénieur, qui n'était même pas son collaborateur. Spreckelsen n'avait pas de collaborateur. Et donc, c'est cet homme qui, d'une part, gagne le concours et surtout qui est parachuté maître d'œuvre, c'est-à-dire patron de la partie architecturale de la construction. À l'évidence, Spreckelsen, qui n'était pas un bâtisseur, a souffert tragiquement de ce défaut d'expérience.
Cela faisait au moins 10 ans qu'on ne savait pas quoi faire de la Défense. Cette dalle battue par les vents, hérissée de tours, avait déjà traversé plusieurs crises. On avait même craint qu'elle ne se vide pour de bon. Alors on avait imaginé qu'il faudrait ici un grand monument pour donner une âme au quartier, quelque chose tout en haut de la colline, au bout de la dalle, sur l'axe historique qui court depuis le Louvre. Mais fallait-il fermer l'axe ou simplement le ponctuer ? Fallait-il bâtir haut, au risque qu'on aperçoive l'édifice depuis Paris ? Ni Pompidou ni Giscard n'avaient su trancher. Dans l'audace de la victoire, Mitterrand s'était finalement décidé à lancer un concours d'esquisses international et anonyme. En mai 1983, tout le monde retient son souffle. Le lauréat, qui a dessiné un monument à la fois simple et puissant, un cube de marbre évidé, est un architecte parfaitement inconnu. Il a construit au Danemark 4 églises, dont il a probablement choisi chacune des briques, et sa maison. Mais soulagement de la garde rapprochée, entre l'architecte novice et Mitterrand, la grève prend.
Ils se sont assez plus. D'abord, ce que je peux casser, c'était un homme beau et d'une beauté d'aristocrate, une beauté...
François Chalin.
Je sais pas quoi, l'élégance d'un mondain new-yorkais.
Critique d'architecture.
Assez différent comme genre nordique, donc assez réservé, ce qui ne déplaisait pas à Mitterrand. Est-ce que beaucoup d'autres architectes, j'imagine, lui taper dans le dos, auraient aimé lui taper dans le dos. Il avait ceci d'assez particulier, c'est qu'il avait des grosses godasses en bois, des sortes de sabots pré-écologiques, enfin oui, écologistes. Et puis, c'est un homme de peu de discours, ce qui est aussi, par rapport au Babil, quand même effrayant des architectes, est quand même une chose qui était rassurante pour un président de la République. Il avait trouvé là une sorte de gravité qui lui plaisait. C'est que l'homme ressemblait à son projet, l'homme ressemblait à cette gravité, à cette solidité. Il a montré ensuite qu'il était fort solide, en effet, dans les difficultés terribles qu'il a connues.
Le prince s'entend avec l'architecte. C'est un couple fameux dans l'histoire, l'architecte et le prince. C'est un couple qui est à l'origine de toutes les grandes constructions que nous avons encore de par le monde. Alors, à ce moment de l'histoire, c'est l'idylle. Le prince a besoin de l'architecte, l'architecte a besoin du prince. Ils se mettent d'accord et ils sont extrêmement heureux d'eux-mêmes et de ce qui va se faire.
Og det fortalte præsidenten, og han var ikke tilfreds med det. Så vi fik lavet en model.
Le président Mitterrand était assez anxieux de savoir ce qu'on allait voir depuis les Champs-Élysées, à travers l'Arc de Triomphe. Donc on a fait réaliser une grande maquette, une immense plaque de la taille du toit du cube, et on l'a soulevée dans les airs. Mon collaborateur Redzel a appelé cette opération le levage fantastique. On avait fait venir une grue géante de Marseille, un modèle allemand, qui a permis de suspendre la plaque à 100 mètres de hauteur, à la hauteur du toit de l'arche. On avait tout préparé et arrangé, et donc un jour, en fin d'après-midi, on a soulevé l'immense plaque avec cette grue géante et 4 petites grues qu'il a stabilisées depuis le sol pour qu'elles ne se mettent pas à tournoyer dans les airs si soudain le vent se levait. Et on a appelé le président de la République. Je me suis précipité à l'Élysée en taxi et il m'a dit « Oh, c'est là-haut ?» J'ai dit « Oui, c'est là-haut. » Et il a couru à travers le jardin jusqu'à une petite porte. Il a dit au garde qui se trouvait là « Ouvrez-nous, nous devons sortir. » Le garde a posé son fusil, s'est précipité dans sa hutte pour trouver la clé qu'il ne trouvait pas. Il était complètement paniqué et confus. Et puis on est sorti et on s'est retrouvé au milieu des Champs-Élysées, entre les files de voitures. Le président, l'interprète et moi. Au bout d'un moment, on a vu ces gardes du corps débouler, complètement affolés. Le président a dit « Écoutez, c'est un endroit un peu plus sûr, personne ne sait que je suis ici. Ça n'a été annoncé nulle part, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. » Et nous sommes restés là. On hurlait parce qu'il y avait beaucoup de circulation et l'interprète, qui avait une toute petite voix faible, n'arrivait pas à se faire entendre. Le président lui disait « Qu'est-ce que vous dites ?» Donc nous étions là à crier et puis Mitterrand a dit « Mais c'est bleu ?» Alors j'ai dit « Oui, c'est bleu. » Parce que c'est le soleil du soir, donc c'est bleu, mais tôt demain, ce sera rose. Oh, il a dit, demain, ça sera rose. Oui. Et donc, à sa demande, nous avons à nouveau fait lever la plaque le lendemain matin, juste avant qu'il ne se rende à l'aéroport pour une visite d'État. Et en effet, c'était rose. J'étais ravi.
Et puis, assez vite vient le temps des études, et là, déjà, le ciel s'assombrit, c'est-à-dire que... Le financier dit « c'est bien joli ce projet, mais on n'a pas assez de moyens ». Le juriste dit « c'est bien joli, mais on n'a pas le droit de faire ça ». Les ingénieurs disent « c'est bien joli, mais techniquement, comment ça tient ?», etc. Donc déjà, au moment des études qui sont très longues pour ces projets et qui consistent en fait à réviser le projet, à l'affiner, à l'adapter, déjà l'architecte commence à maugréer. Et déjà, le principe de réalité empiète sur le rêve.
Il était beaucoup sur ses gardes.
Robert Lyon.
C'est un homme froid, un vrai nordique.
Ancien directeur de la Caisse des dépôts.
Pénétré par l'idée que son esquisse était géniale, ce qui est vrai, et qu'il fallait ne pas la laisser défigurer.
Ça se passe assez vite, très mal, entre l'architecte et les Français, notamment ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage, donc les gens qui sont en charge de la commande, qui ne sont pas à Mitterrand directement, même si Mitterrand a des liens avec lui, il y a quand même des maîtres d'ouvrage et ça ne se passe pas très bien.
Ça se passe mal pour diverses raisons. D'abord, ça se passe mal pour des raisons... c'est un homme qui n'a pas l'habitude de construire. On lui associe Paul Andreu, très bon architecte et ingénieur, auteur de dizaines d'aéroports dans le monde, mais à l'époque, il était surtout auteur de Roissy. Et André n'a pas tout à fait la même éthique ou esthétique du bâtiment que lui. Il est plus un homme du béton armé. On le voit bien dans ses bâtiments de Roissy, par exemple. Je crois qu'Elsen pense qu'il va régner, qu'il va être protégé par Mitterrand. Mais il se trouve qu'il y a quand même des règlements aussi en France. C'est-à-dire qu'on doit faire des appels d'offres, il y a toutes sortes de systèmes qui sont très compliqués. Il a contre lui ou face à lui, avec lui, l'entreprise Bouygues, qui est une puissance extraordinaire, presque aussi puissante que l'État, quasiment. Mais Bouygues, à l'époque, ne possède pas encore peut-être les télévisions, mais ça va venir. Et donc il est face à un monde difficile.
Le maçon, c'est l'entreprise Bouygues. L'entreprise Bouygues, elle compte 200 polytechniciens, je ne sais combien de centraliens, des ingénieurs de très très grand calibre qui tous s'y connaissent bien davantage que Spreckelsen en matière de construction. Donc déjà, Spreckelsen, qui est le patron, parce qu'il a gagné le concours, qui est le patron de l'architecture, est incapable d'exercer cette charge. Et celui qui le sait le mieux, c'est lui. Et ça le met dans un étau d'angoisse effroyable, d'autant qu'il a une autre source d'angoisse, qui est qu'il se méfie affreusement des Français. Et là, il n'est pas le seul au Danemark. Tout le monde au Danemark, et tout le monde dans bien des pays, je l'ai découvert avec chagrin en écrivant ce livre, considère les Français, les Italiens et les Espagnols comme des Latins, des Romains, qui sont des gens brillants, très séduisants, très amusants, mais alors avec lesquels il ne faut surtout pas travailler.
Il faut se mettre aussi à la place de cet architecte qui ne pensait pas gagner ce concours international, qui considérait que la France était un petit peu un pays barbare et qui se méfiait beaucoup. Mais il faut penser aussi à l'architecte associé qui avait affaire à une esquisse. Aucun plan de détail, quasiment pas d'indication sur les techniques de construction, comment on allait faire cette immense structure, notamment ce pont de 80 mètres de large à 100 mètres de hauteur, supportant le toit. Il y a eu des discussions infinies entre Andreux, les bureaux d'études techniques, qui doivent garantir la construction dans le temps, et Spreckelsen.
Tout est négocié, tout est un problème. Il repart au Danemark, il envoie tout le temps des refus par fax. Vous racontez qu'il signe The Architect, comme ça, que ça exaspère les Français. Enfin, ces gens ne se comprennent pas, en fait.
Il y a des tensions extrêmes entre... Paul Andreux m'a dit... on échangeait des noms d'oiseaux, on s'engueulait furieusement. Paul Andreux n'est plus, mais comme il parlait en anglais, Robert Lyon m'a dit « j'ai beaucoup enrichi mon vocabulaire ordurier anglais à les écouter ». Ça a été très loin, si vous voulez. À un moment, il a fallu écarter l'un des deux du chantier. Ça a été Andreux qui a été mis en pénitence pendant un certain temps. Enfin, l'ambiance était absolument terrible, la violence était très grande.
C'est vraiment un choc des cultures qui s'est produit là.
Louise Lane.
Entre un architecte ingénieur
architecte.
Très rationnel et donc vraiment penché sur la faisabilité des choses. Et Spreckelsen qui, lui, voulait plutôt essayer, prendre du temps, tout en reprochant aux Français de prendre du temps pour prendre leurs décisions. Mais voilà, il ne s'entendait pas au sens premier du terme. Spreckelsen dit même à un moment on parle en anglais, c'est la langue de personne. Et donc c'est compliqué parce que parfois moi j'ai l'impression qu'une décision est prise, qu'elle est ferme et définitive, et eux en fait ils ont l'impression que c'est encore ouvert. Donc tout ça très vite a tendu les rapports. Et Andreux avait eu cette expression, il m'avait dit « je me suis retrouvée entre l'arbre et l'écorce », au milieu de la maîtrise d'ouvrage qui lui disait « fais comme ci, fais comme ça », et de Spreckelsen qui lui disait tout autre chose.
Spreckelsen voudrait édifier le squelette de l'arche, voir s'élever la structure nue avant de l'habiller. « Non, dit Bouygues, c'est trop cher. » Il voudrait recouvrir d'un verre lisse les faces du cube, sans soudure ni montant. « Non, dit Saint-Gobain, trop dangereux, mais nous pourrons, monsieur l'architecte, vous donner l'illusion de planéité. » Chaque fois, Spreckelsen est mortifié. C'est son art que la technique ou la finance attaque. Drapé dans son intransigeance, il refuse d'être accompagné à Carrare et choisit seul le marbre qui doit revêtir le cube. Un marbre hors de prix qui fait grincer des dents les Français.
Il se trouve que François Mitterrand était passionné par la construction, l'architecture. Bon, il se trouve qu'il s'est investi personnellement énormément dans ce grand train de projets monumentaux qu'il avait lancé. Mais au lieu de laisser travailler toutes les structures conçues pour ce faire, c'est-à-dire les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre, l'une équilibrant l'autre, il s'est immiscé d'une manière perverse. Ce n'était pas de la perversité morale, mais ça a perverti le fonctionnement de ces chantiers, au point qu'on peut parler de corruption. Ce n'est pas une corruption financière, c'est une corruption politique.
Der er et problem, som skal løses snart, og det er, om marmoren skal have en overfladebehandling eller stå i natura.
Il y a un problème qui commence à s'imposer, c'est à savoir si le marbre doit subir, la surface doit subir un traitement.
Un traitement.
Det er en overfladebehandling, der lukker porerne til marmor, så vandet ikke trænger ind.
Un traitement qui ferme les pores du marbre de manière à ce que l'eau ne pénètre pas.
Og det er jeg lidt bange for, fordi så kan stenen ikke ånde og få sin naturlige patina.
Mais ça ne plaît pas trop à M. Spreketsen parce qu'il estime que la pierre ne respirera pas et n'aura pas une patine naturelle.
Mes expériences sont bien.
La pierre est la pierre. Si vous changez sa nature, elle n'aura plus à travers les temps l'évolution qu'on attend d'elle. Quant à savoir si du marbre peut tenir les affronts du temps, il existe assez d'exemples. Pour estimer que ça a été démontré. Bien entendu, à condition de bien choisir le marbre.
Det var i alle fald et par hundrede år før vi ser skavankerne.
Ça me dit qu'il faudra attendre au moins quelques centaines d'années avant de voir quelques dégâts sur le marbre.
Oui, oui. Enfin, on travaille pour quelques centaines d'années.
Ce qui est absolument navrant, c'est que personne ne s'offusque de ce type de déviance du pouvoir qui ralentit considérablement les choses en France. Du coup, la maîtrise d'ouvrage, dont la fonction était de dire à Spreckelsen, Monsieur von Spreckelsen, ce que vous demandez ici est impossible, point, ne pouvait pas le faire, puisque d'une part, Spreckelsen était l'architecte élu par le président de la République qui veillait à tout, et d'autre part, Robert Lyon tenait beaucoup à ne pas se fâcher avec le même président de la République. Vous avez un système très pervers en France.
Et puis, autre chose extrêmement difficile aussi, c'est que très rapidement, c'est-à-dire au bout de 3-4 ans, la gauche perd les élections et que le Premier ministre Jacques Chirac essaye de nuire le plus possible à tous les grands projets mitterrandiens. Le Louvre, le ministère des Finances, l'Opéra Bastille qui est interrompu, enfin vous connaissez un peu toutes ces histoires-là. Donc la Grande Arche devient portée par les mitterrandiens et par Robert Lyon et les gens qui l'entourent dans une forte opposition politique.
1er juillet 85, ouverture du chantier. Ouverture du chantier. Début du construction des fondations. Avril 86, élection législative, renversement de majorité. Et on a cette situation inouïe qu'on a appelée la cohabitation. Le gouvernement gouverne, le président ne préside plus. Alors ça, Spreckelsen ne l'a jamais compris. Comment ce président, qui avait organisé le concours, qui avait choisi l'Arche et qui était si attaché à l'Arche, tout d'un coup, dans l'affaire, n'a plus de pouvoir. Il n'a jamais compris. Alors, il y a le renversement de majorité, très bien, c'est légal, c'est démocratique. Il y a la malignité politique. C'est pas parce que la majorité change qu'elle doit détricoter ce qui vient d'être tricoté à grand-peine par l'équipe précédente. On pourrait réfléchir au coût que ça représente pour l'ensemble de la collectivité. Et à la Défense, il se passe un travail de sape absolument malin, uniquement malin, dont on peut résumer l'intention en disant, c'est moi qui le dis, qu'on s'est ingénié à casser le jouet préféré du président Mitterrand. On l'a cassé comment ? On l'a cassé en supprimant le financement public de l'affaire, c'est-à-dire en amputant le budget de manière telle qu'il n'était plus possible de construire l'Arche.
Juppé me dit, est-ce que vous pouvez arrêter votre chantier, monsieur Lyon ? Je lui dis que je ne peux pas. Et il me dit, ben alors il faut au moins supprimer l'équipement qui est prévu dedans, qui s'appelait le carrefour de la communication. Et on l'a transigé là-dessus. Simplement, ça devait être un établissement public d'État. Et l'État avait déjà versé à nous, le promoteur, le maître d'ouvrage, une des sommes très importantes pour préfigurer son implantation dans le bâtiment.
Alors, il faut savoir que François Mitterrand tout de même a été particulièrement ambigu à cette époque, puisqu'il a été question d'abandonner l'Arche, en fait, d'abandonner le projet de Spreckelsen. On n'a pas l'argent, les fondations sont à peine sorties de terre, on va faire, je sais pas quoi, un supermarché de 30 mètres de haut. Enfin, on pouvait tout imaginer. Et François Mitterrand, à ce moment-là, a prêté l'oreille à Christian Pellerin. Christian Pellerin, c'est un promoteur. Au moment où l'équipe, qui est pour lui l'ennemi, l'équipe publique, autour de Robert Lion et de Spreckelsen, est bafouée et il se voit couper les financements, Christian Pellerin se dit « c'est mon heure ».
Christian Pellerin était un promoteur très dynamique qui avait construit une bonne partie des tours de la Défense avant, qui était le promoteur de la Défense, un jeune promoteur privé très soucieux de faire beaucoup de profits, mais assez professionnel, et qui ne pouvait pas admettre que la tête de son quartier, la tête Défense, soit réalisée par un individu plus ou moins socialiste et patron d'une institution publique, la Caisse des dépôts. Donc il a essayé effectivement de me déloger de là. Christian Pellerin voulait arranger tout le quartier à sa façon et défigurer un petit peu l'arche. Il avait préparé une grande maquette qu'il voulait présenter à François Mitterrand. Et j'ai fait savoir à l'Élysée que si le président de la République allait voir la maquette de Pellerin, je ne continuais pas d'assurer la promotion de l'Arche.
C'est Jean-Louis Subilo qui était directeur de la maîtrise d'ouvrage et qui vraiment a suivi cette affaire jour après jour à plein temps. Il a été le seul, comme dit Robert Lion, c'est la pierre angulaire de l'affaire. Jean-Louis Subilo m'a dit, non pas c'était ignoble, il m'a dit c'était ignoble, ça a été ignoble. C'était les Médicis, c'était les couteaux tirés sur l'esplanade. Il fallait, en sortant de son bureau, regarder à droite, regarder à gauche et regarder derrière.
Et donc, nous avons dû trouver les sommes pour rembourser l'État en continuant notre opération de promotion avec des financements à monter. Et pour ça, il a fallu remettre en cause l'opération. Et on ne l'a pas touché à l'Arche, on a touché à des bâtiments annexes de part et d'autre, qui faisaient partie du projet, qu'on appelait les collines. Donc on a préservé l'Arche intégralement, mais on a dû défigurer les collines de Spreckelsen qui sont sur les côtés, qu'on voit à peine aujourd'hui, qui sont les bâtiments à gauche et à droite, qui sont devenus deux fois plus denses, ce qui nous a donné, pour notre société maître d'ouvrage, les ressources nécessaires pour, fameusement, rembourser l'État.
Cet été-là, l'été 86, alors que vous êtes en train de sauver son projet de la promotion privée, Spreckelsen démissionne.
Oui, Spreckelsen était un homme au caractère difficile, compliqué, je ne saurais pas vous le décoder, je ne l'ai pas toujours bien compris. Et il a été dépassé par son œuvre. La dernière fois que je l'ai vu, c'était sur le chantier. Et je lui demandais, mais qu'est-ce que c'est cette ouverture ici, cet élément qui monte là? Il était incapable de répondre. Et il a lâché prise, en quelque sorte.
Il y a quelque chose de tout à fait pathétique. Spreckelsen démissionne le 31 juillet 86. C'est l'affliction générale dans l'équipe en France. Tout le monde est navré. Le président Mitterrand est furieux, dit « débrouillez-vous pour le rattraper ». Il est de marbre, il part au Danemark. Et puis, il revient en octobre sans avoir prévenu personne. On ne sait pas très bien ce qu'il venait faire à Paris. Il avait dit qu'il ne voulait plus entendre parler du chantier. Le protocole de démission est pathétique, qu'il ne voulait plus que son nom soit associé au chantier. Peut-être qu'il avait quand même l'idée d'aller voir en douce à la nuit le chantier. Enfin, toujours est-il que pendant ce séjour à Paris, il est pris de douleurs violentes. Vous entendrez dire qu'il a démissionné parce qu'il était malade. C'est faux. Il démissionne et juste après, il apprend qu'il est malade. Et il meurt en mars 87. Voilà, il est probablement mort d'un cancer fulgurant, ce qui permet à certains qui font le lien entre le déchirement interne, l'humiliation, la démission et le cancer, de penser qu'il est mort de son œuvre.
On était sûr qu'on allait construire son bâtiment. De toute façon, je dirais qu'il soit là ou non, on était parti avec Paul Andreu pour être fidèle à l'esquisse de Spreckelsen. Je ne savais pas qu'il allait décéder l'année suivante. Je pensais qu'il reviendrait, qu'il serait là le jour de l'inauguration, etc. Voilà, donc on a quand même mené à bien, je pense, en bonne fidélité à l'esquisse de ce grand monsieur.
C'est ce qui est très triste dans cette histoire, il n'y a pas de médiocre. Les Français qui ont été tant décriés par Spreckelsen sont des gens bien. Ils auraient voulu que toutes ces négociations si dures se passent moins durement. Comme me l'a dit magnifiquement François Chalin, ils ont essayé de prendre le projet des mains trop fragiles de Spreckelsen. Spreckelsen a vécu ça comme une dépossession. Il était obsédé à l'idée qu'on touche à son projet. Et le fait est qu'on y a touché énormément, énormément.
Le 15 juillet 1989, les célébrations du bicentenaire de la Révolution française s'achèvent par une rencontre des puissants de ce monde au sommet de l'Arche. On se presse au pied des ascenseurs, ces petites capsules de verre dessinées par l'architecte et dont on se rend compte au passage qu'elles sont sous-calibrées pour hisser les 3000 invités au sommet. Qu'à cela ne tienne, on patiente. En haut, la fête bat son plein, le champagne coule à flot. On a fait faire un mobilier éphémère à André Poutman. Au pied de l'arche, dans son socle désert, une minuscule assemblée se tient autour d'un petit poste de télévision. On a installé à la hâte de quoi regarder un film tourné à la gloire de l'architecte déjà oublié. Devant, Madame Spreckelsen et ses 4 enfants qui ont fait le voyage. La fête terminée, le mobilier rangé, l'Arche a attendu longtemps qu'on lui assigne une fonction. Arche de la Défense, de la Fraternité, des Droits de l'Homme, Grande Arche, on n'est pas sûr d'avoir encore trouvé. Son marbre s'est finalement décollé. Après 25 ans, il s'est révélé poreux. On l'a remplacé par du granit. Mais peu importe, l'Arche a survécu à un thriller politico-financier et elle continue de faire événement, puissante et courtoise.
L'Arche touche au sublime, je crois. C'est pas une chose que je suis la seule à penser. Pas mal de commentateurs ont parlé d'une impression de sacré en voyant l'Arche, au pied de l'Arche, ou pas forcément au pied d'ailleurs, en la regardant, en avançant vers elle. Il y a quelque chose de très spirituel dans cette construction. Il y avait chez Spreckelsen quelque chose de très spirituel. C'est tout de même assez singulier d'avoir construit 4 églises cubiques. Non pas cubique à l'extérieur, mais cubique à l'intérieur, 4 églises, et puis l'Arche. On a voulu lui faire dire que c'était encore un temple. Bon, il n'était pas métaphysicien, il n'a pas beaucoup commenté, mais enfin, on peut y voir tout de même un bâtiment très profondément marqué par sa spiritualité propre. Voilà, les francs-maçons ont dit que c'était franc-maçon, les ésotéristes égyptiens ont dit que c'était de l'ésotérisme égyptien. C'est un formidable réceptacle à fantasmes, comme tous les grands monuments.
C'était l'Arche de la Défense, épisode 2, la tragédie. Avec Laurence Cossé, François Chalin, Robert Lyon, Loïse Laine, Jack Lang et Johann Otto von Spreckelsen, tiré du film de Dan Tchernia, Homage to Humanity. Voix Renaud Bertin. Merci à Jean-Marc Lefebvre. Prise de son Yann Frécy. Mixage Stéphane Desmonts. Coordination Christine Bernard, épaulée par Juliette Testa. Un documentaire de Camille Jusa et Lionel Quentin.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Ce sera l'histoire du plus grand braquage ferroviaire de France. Mais c'est une autre histoire.